Bonjour à chacun. On continue ce matin notre série dans l'épître de Jacques, la lettre que Jacques a envoyée aux membres de l'église de Jérusalem. On a commencé ça la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je ne m'en souviens pas parce que je n'étais pas là. J'ai écouté la prédication en ligne, mais c'était un peu juste pour nous de venir la semaine dernière, juste quelques jours après la naissance de notre troisième fille. Un petit mot de rappel. Il s'agit d'un pasteur, Jacques, pasteur de l'église de Jérusalem, qui écrit aux membres de son église. Alors c'est un peu bizarre, pourquoi un pasteur il écrirait aux membres de son église? En fait, il leur renvoie en quelque sorte une série de prédications écrites parce que ses membres sont dispersés à cause de la persécution. Ils vivent des choses dures. Et Jacques leur écrit ces quelques chapitres pour leur dire en somme une chose. Il leur dit « Sois cohérent ». C'est pour ça que c'est le titre qu'on a mis à cette série « Sois cohérent ». Puis vous avez vu, j'ai mis toutes ces rouages là sur cette image. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, elle est un petit peu comme un système de rouages. Je ne sais pas si vous avez vu... Charlie Chaplin, cette fameuse scène dans les temps modernes hein, où il y a ces rouages et puis il faut que chaque rouage soit imbriqué dans l'autre pour que le tout fonctionne. Parfois, nous les chrétiens, on a tendance à dire « Moi, je suis chrétien, donc j'ai ce rouage ou j'ai celui-ci, mais les autres, ce n'est pas très important. » Mais ce que Jacques nous dit, c'est que non, dans la vie chrétienne, toutes les facettes sont importantes, toutes les facettes sont nécessaires. On ne peut pas avoir la foi et négliger les œuvres. Ce n'est pas possible. On doit vivre la vie chrétienne d'une manière totale. Et puis là, on va lire maintenant ensemble la deuxième partie du chapitre 1 de cette lettre. J'ai donné ce titre à ce passage, « Arrête le blabla et vis ta foi ».« Arrête le blabla et vis ta foi ». Sois cohérent. On est vraiment dans le cœur du message de cette lettre. Si jamais, il y a des petits flyers comme ça, avec le thème de cette série, et puis tous les messages de cette série. Vous pouvez vous servir de ça si vous pensez qu'un de ces messages peut peut-être intéresser quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un moyen de l'inviter justement pour un des messages de cette série. Ce matin, on va construire une maison ensemble. Et pour construire une maison, il faut passer par un certain nombre d'étapes. On va passer par 6 phases dans le chantier pour construire une maison. Cette maison qu'on va essayer de construire ensemble, en fait, que Jacques construit pour nous, c'est justement une vie chrétienne cohérente. Et on va voir étape par étape comment construire une vie chrétienne cohérente. Mais avant de lire le texte, je dois faire une remarque. Il ne s'agit pas de 6 étapes qui doivent durer tout au long de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose comme pendant les 2 premières années de ta vie chrétienne, tu vas vivre dans l'étape numéro 1 et puis ensuite peut-être tu vas pouvoir passer au grade supérieur et passer à l'étape numéro 2. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de quelque chose qu'on doit faire au début de sa vie chrétienne. Si on veut vivre une vie chrétienne cohérente, on doit construire cette maison. Puis ensuite on peut y habiter. Ensuite on peut vivre cette vie chrétienne cohérente. Je vais lire le texte maintenant, et puis ensuite, on va repasser phase par phase au travers de ce texte. Vous pouvez le chercher dans Jacques chapitre 1, ou alors vous pouvez le lire directement ici à l'écran. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas. Mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de Dieu, la colère de l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Arrête le blabla et vis ta foi. C'est ça que Jacques nous enseigne ici. Et on va construire la maison. On va décortiquer un petit peu ce texte pour voir ce que Jacques nous dit. Quand on construit une maison, à chaque fois j'ai renoté les versets comme ça, si jamais vous voulez voir où ce que je dis se situe dans le texte, vous pouvez le lire directement dans le texte. Première phase, c'est le projet. Il faut être au clair sur le but. Il faut savoir où on va. Jacques vient d'écrire 10 versets qu'on a lus la semaine dernière sur l'épreuve. Et maintenant, il passe à une épreuve particulière. Une épreuve qui s'appelle la tentation. Il nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Pourquoi ? Parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie qu'il, c'est-à-dire Dieu, a promise à ceux qu'il aime. Ça, c'est le projet de la vie chrétienne. Ça, c'est l'objectif. Deux étapes. Premièrement, supporter patiemment la tentation. Et deuxièmement, recevoir la couronne de vie qu'il a promise à Dieu, à ceux qu'il aime. Alors, Jacques n'est pas en train de faire une condition ici, de dire que si vous ne supportez pas patiemment la tentation, vous ne recevrez pas la couronne de vie. Mais il est en train de dire, voilà le but, voilà ce qui vous motive. Et avant de se lancer dans le chantier, avant de se lancer dans le projet d'une vie chrétienne cohérente, regardons le but. Le but, il est éternel. Le but, c'est l'éternité passée dans la présence de Dieu. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'avoir ce désir de vivre une vie chrétienne cohérente? Il y a quelque temps, on était avec Chris Short. Certains l'ont vu, il était notre orateur à notre week-end d'église l'année passée en fait. Chris Short, bon, vous n'en avez peut-être pas rendu compte parce qu'il est très énergique, mais il a une maladie. Il a une maladie qui fait que ses jours sont peut-être comptés. Enfin, il ne sait pas trop en fait comment la maladie va évoluer. Mais il nous a dit cette phrase hyper forte. La dernière fois qu'on s'est vu, on lui a demandé des nouvelles de sa santé, savoir comment il allait. Il a dit « Mon espérance de vie n'a pas changé. » Ça, c'est fort, hein ?« Mon espérance de vie n'a pas changé. » Il regarde le but, la couronne de vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Et ça, ça nous motive. Ça, c'est le projet dans lequel on veut s'engager. Deuxième phase dans un chantier, le terrassement. Avant de pouvoir amener les matériaux qui constitueront la maison, il faut préparer le terrain. Éventuellement, il faudra peut-être démolir une ancienne construction. Peut-être qu'il faudra arracher des arbres, enlever des rochers, aplanir le terrain, assainir le terrain, ou que sais-je. Bref, il faut faire le ménage avant de construire une maison. Et Jacques fait ça, il commence par faire le ménage. Il balaie les fausses idées qui pourraient empêcher de vivre une vie chrétienne cohérente. Lorsque notre vie chrétienne sort des rails de la cohérence, quand on commence à partir à côté de la plaque, ça peut être tentant de glisser vers un certain fatalisme. Se dire, mais finalement, on n'y peut rien. Tout ça, si ça se produit, si on est en train de partir dans le décor, c'est le fait de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui produit tout, c'est lui qui dirige tout l'univers, donc c'est de sa faute si je suis en train de partir en vrille. C'est tentant, cette idée. Mais Jacques la balaie. Il nous dit que Dieu ne tente personne. Il n'induit pas le mal, il ne connaît même pas le mal. Il nous dit qu'au contraire, le mécanisme qui donne naissance au péché se déroule où ? En nous. Il nous décrit le mécanisme qui donne naissance au péché en trois étapes. Premièrement, la convoitise, ou le désir dans cette version. Cette convoitise engendre, deuxièmement, le péché. Et le péché, troisièmement, engendre la mort. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette description, mais je trouve que c'est hyper éclairant. Convoitise, péché, mort. Je trouve que ça reflète bien ce qu'on peut lire dans Genèse chapitre 3, au moment de la chute. Adam et Ève ont vu le fruit, ils en ont eu envie, convoitise. Ils l'ont mangé, péché. Et à partir de là, la relation avec Dieu a été brisée, mort. Ça reflète bien le moment de la chute, mais je trouve que ça reflète bien aussi notre quotidien. Notre expérience, ma propre expérience. On est attiré, amorcé par le mal, convoitise, et puis on commet le mal, et puis la mort se propage. Je dois faire une remarque ici. La Bible n'enseigne pas un lien systématique entre un péché particulier et la mort, ou une épreuve, ou une maladie, ou quelque chose comme ça. Parfois, ça peut être le cas. Il y a plusieurs moments dans la Bible où c'est le cas, mais il n'y a pas de lien systématique. Ça veut dire que si vous avez un cancer, ou si vous passez par une épreuve, ou si un de vos proches décède, il est sage de se demander si Dieu ne veut pas mettre le doigt sur quelque chose dans votre vie au travers de cette épreuve. Mais ne cherchez pas un péché à tout prix. Il n'y a pas de lien systématique entre un péché particulier et l'épreuve. Il faut distinguer deux notions ici. D'un côté, il y a l'état de péché, et de l'autre côté, il y a l'acte de péché. L'état de péché, c'est le fait que toute l'humanité, par nature, est vendue au péché. Tous, nous sommes pécheurs. Depuis Genèse 3, en tant que descendants d'Adam et Ève, nous sommes tous pécheurs vendus au péché. Et puis, de l'autre côté, il y a les actes de péché. Les actes de péché, ce sont des manifestations concrètes qui nous prouvent que nous sommes pécheurs, que nous sommes dans cet état de péché. Parce qu'on n'est pas juste des victimes du choix d'Adam et Ève, on est aussi des acteurs. On commet aussi le péché. Donc, la mort et les maladies sont assurément le fruit de l'état du péché, mais pas nécessairement le fruit d'un acte de péché en particulier. De quelque chose de précis. Donc il faut être modeste par rapport à cette question-là et pas essayer de chercher absolument le péché derrière toutes les épreuves qu'on peut vivre. Je ferme cette parenthèse pour dire que, quoi qu'il en soit, le mécanisme d'engendrement du péché se déroule en nous. Et pour vivre une vie chrétienne cohérente, c'est pas en Dieu qu'il doit y avoir un changement. Ce n'est pas Dieu qui doit faire son travail ou Dieu qui doit changer sa volonté. C'est en nous qu'il doit y avoir un changement. Jacques a chassé les fausses idées. Il a effectué le terrassement. Maintenant, le terrain est prêt. On peut démarrer la construction d'une vie chrétienne cohérente. Première chose qu'on fait quand on construit une maison, c'est qu'on pose les fondations. J'ai un beau-père qui est dans le bâtiment et il pourrait nous expliquer ça beaucoup mieux que moi, qui connaît vraiment rien à la construction d'un bâtiment. Mais lui, il saurait très bien dire que si on fait mal l'étape des fondations, toute la construction ne tiendra jamais. Ça ne va pas être à l'épreuve du temps. Et pour Jacques, le premier élément, cette fondation, c'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, ça veut dire le fait d'être régénéré, d'être généré de nouveau, le fait de naître de nouveau. La régénération ou la nouvelle naissance, c'est ce qui va supporter par la suite toute la maison. Et sans la régénération, impossible de bâtir une vie chrétienne cohérente. Vous pouvez essayer par vos propres forces. Si vous n'êtes pas régénéré, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez essayer de satisfaire, de plaire à Dieu, de faire tous vos efforts. Ça ne marchera pas. Une vie chrétienne cohérente est impossible sans cette première étape. Jacques, ici, fait un contraste fort entre le point précédent. On a vu que le mécanisme d'engendrement du péché, c'était l'apanage des êtres humains. Et puis là, il nous présente un autre mécanisme, un mécanisme de grâce et de don, qui, lui, est l'apanage de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Dieu, il nous a engendrés. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a régénérés. Comment ? De manière conforme à sa volonté, nous dit le texte. Par sa parole, pour que nous soyons ses créatures. Par le sacrifice de Christ, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes régénérés. Dieu pose le fondement. Il fait le miracle initial sur lequel la maison va pouvoir être bâtie. Il nous régénère. Je fais juste une petite pause dans nos 6 étapes de construction. J'ai essayé de faire un schéma pour représenter ces 2 premières étapes pour que voilà, les idées soient bien claires dans nos esprits. Ça, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe en nous ? Quel est le mécanisme qui se trame en nous qu'on vient de voir au point précédent ? La convoitise engendrant le péché, engendrant la mort. Ça, c'est ce qui se passe en moi. Et voilà l'autre mécanisme. Alors, pour ne pas représenter Dieu, j'ai juste mis un arc de cercle ici. Ça, c'est Dieu qui va nous envoyer autre chose pour sortir de cette spirale infernale. Dieu va nous ouvrir une autre voie. Voilà ce que le point qu'on vient de voir nous avait dit, c'est que conformément à sa volonté, par sa parole, il nous donne la vie. On voit que la destination est différente. Hein. Nous allons à la mort, mais lui, par sa parole, nous donne la vie. Comment c'est possible ? Par Jésus-Christ. C'est Christ qui a payé le prix de nos péchés sur la croix il y a 2000 ans. Et c'est par la foi en Christ que nous pouvons recevoir cette grâce, ce don parfait que nous envoie le Père des Lumières. Phase 4, les murs. Parce qu'après les fondations, il faut commencer de construire la maison elle-même. Il faut bâtir les murs. Et ces murs, pour Jacques, comment est-ce qu'on commence à construire, faire sortir l'édifice de terre ? C'est par l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons être prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Nous devons rejeter souillure et méchanceté pour recevoir avec douceur la parole plantée en nous. Il y a une certaine logique, une continuité ici. En fait, ce que Jacques est en train de dire, c'est que il n'y a pas genre la régénération à un moment, et puis après on passe à autre chose que la parole. Pas du tout. En fait, on est régénéré par la parole, et ensuite on construit les murs de la vie chrétienne par la parole aussi. Ça tombe sous le sens. Puisque c'est la parole qui nous a régénérés, c'est logique qu'on continue à vivre par elle, qu'on continue à grandir par elle. Mais ça ne s'arrête pas là. Après les murs, vient le toit. Parce qu'une maison, 4 murs, ça ne fait pas une maison, n'est-ce pas, hein ? On ne peut pas l'habiter. Il faut un toit dessus pour que la maison soit complète. Ce toit, pour Jacques, c'est la mise en pratique. Parce que l'écoute de la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu comme une maison sans toit. Ça ne sert à rien. si la mise en pratique ne suit pas derrière. Alors là, il y a une petite illustration que Jacques utilise. Il nous dit que la parole de Dieu, elle est comme un miroir. On regarde ce miroir et on apprend qui nous sommes nous-mêmes. Et alors, j'ai inventé une autre petite illustration pour essayer de bien se souvenir de ça. Imaginez un poisson rouge qui vit dans un aquarium. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment on peut savoir ça, mais voilà, j'ai entendu ça, qu'un poisson rouge, il a une mémoire de 5 secondes. Alors, notre poisson rouge, il est là, il nage tranquillement dans son aquarium jusqu'à arriver à une paroi de l'aquarium. Et puis, à 2 cm de la paroi, il s'arrête. Il voit son reflet sur le verre. Après quelques secondes, il réalise que ce reflet est son reflet. Il réalise que c'est lui. Et tout heureux de savoir ce qu'il est et comment il est, il se retourne et il commence à nager dans l'autre sens. Il nage tranquillement, quand soudain, il arrive à une paroi de l'aquarium. Il s'arrête à 2 cm de la paroi et il découvre son reflet sur le verre. Après quelques secondes, il réalise que ce reflet est son reflet. Il réalise que c'est lui. Tout heureux de savoir ce qu'il est et comment il est, il se retourne et continue à nager. Si ça vous intéresse, je peux continuer l'histoire, mais je vous préviens, ça va être long, même très 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 long. Vous avez compris ? La Bible est notre miroir. Elle révèle ce que nous sommes vraiment. Et si nous constatons d'une information, juste de dire, ben voilà, on est comme ça, mais sans rien changer, sans mettre en œuvre des changements, on est des poissons rouges qui arrivons à une paroi de l'aquarium. Et puis, on est de nouveau tout heureux arrivé à une autre. On se rend bien compte de l'illustration qui est. Enfin, c'est absurde de vivre comme ça. Mais, nous dit Jacques, celui qui plonge ses regards dans cette loi parfaite, dans cette loi de liberté, celui qui persévère et qui la met en pratique, sera heureux dans son activité. Ça, c'est le toit. Et puis là, la maison est terminée. Je ne sais pas si c'est le bon terme technique, mais je crois qu'on appelle tout ça le gros œuvre. Le gros œuvre est achevé. La maison est maintenant habitable. Mais seulement, si on veut vraiment pouvoir l'habiter pour un usage quotidien normal, il faut encore une dernière étape, les finitions. Il faut que la maison devienne vraiment viable, qu'elle devienne vraiment pratique. Une vie chrétienne cohérente, ça ne doit pas être juste une belle maison. Il faut que ça devienne une habitude de vie, quelque chose qu'on va, un style de vie qui va nous habiter quotidiennement. C'est ce que Jacques appelle ici une religion. Qu'est-ce que c'est la vraie religion, d'après Jacques ? Parfois, les évangéliques ont dit que nous, on n'a pas une religion, on a une relation. Mais en fait, Jacques nous dit le contraire. Il nous dit, vous avez une religion. Mais qu'est-ce que c'est, cette religion ? C'est visiter les orphelins et les veuves, se préserver des souillures du monde. Jacques a choisi ces deux choses, visiter les orphelins et les veuves et se préserver des souillures du monde. Probablement que c'était peut-être le point le plus saillant chez ses premiers lecteurs. Peut-être qu'il nous aurait dit autre chose à nous aujourd'hui. Mais ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est que la vraie religion, c'est la mise en pratique faite style de vie de la parole de Dieu. Ça veut dire quand la mise en pratique devient vraiment notre moteur, notre vie quotidienne, alors là, on est dans la vraie religion. Par opposition, la religion vaine, la fausse religion, elle consiste à ne pas tenir sa langue en bride et à tromper nos cœurs. C'est pour ça que j'ai dit, arrête le blabla et vis ta foi. C'est ce que Jacques nous laisse ici. Arrête le blabla et vis ta foi. Écoute la parole, mets-la en pratique. Pas uniquement une fois, mais tout au long de la vie. Fais de cette mise en pratique un style de vie. C'est ça, une vie chrétienne cohérente. Alors pour ceux qui m'ont déjà entendu quelques fois prêcher, vous savez que j'ai une petite phrase que j'aime bien dire. C'est que on ne se contente pas de lire la Bible pour des raisons intellectuelles seulement, mais on la lit en vue d'une transformation de nos cœurs. Et cette phrase, je la tire entre autres de ce passage-là. Ce passage-là, il insiste là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas se contenter d'une nouvelle information. Si on s'arrête là, on dit « voilà, c'était sympa, on a vu comment construire une vie chrétienne cohérente », ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille un pas plus loin, qu'on réfléchisse à comment mettre en pratique cela, comment vivre cela. Et je crois que ce texte, encore plus qu'un autre, nous force à chercher l'application à ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Comment est-ce que très concrètement, on peut bâtir une vie chrétienne cohérente? Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est par Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie qui va produire cela. C'est vrai. Mais ici, Jacques nous incite à faire des efforts. Et en fait, les deux choses ne sont pas incompatibles. C'est pas que le Saint-Esprit va nous faire les choses comme des marionnettes. C'est à nous de nous mettre en mouvement, à nous de nous laisser transformer par lui pour bâtir cette vie chrétienne cohérente. Comment ? En écoutant la parole, en la mettant en pratique et en faisant de la mise en pratique un style de vie. Et pour faire ça, je crois qu'il faut qu'on adopte, qu'on mette en place dans nos vies de bonnes disciplines de vie. Alors je sais, le mot discipline a une connotation un peu négative aujourd'hui, et si vous n'aimez pas le mot discipline, vous pouvez remplacer simplement ce mot par de bonnes habitudes de vie. Peut-être que vous avez l'habitude de lire la Bible régulièrement. Si c'est le cas, c'est super, mais en fait, ce que Jacques nous dit ici, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut non seulement la lire, mais aussi faire en sorte qu'elle nous transforme, que cette mise en pratique devienne un style de vie. Alors je vous propose un exercice pour nous encourager en tant qu'Église à vivre ça. C'est quelque chose de tout simple. Il s'agit de quelques petites questions que je vous ai préparées. Et pour vous éviter, elles sont là en fait, en plus grand, comme ça vous pouvez les lire. Et puis j'en ai imprimé une centaine sur des cartes comme ça. Elles sont là-bas sur le comptoir. Prenez-en cette réflexion qui nous invite à méditer et surtout à réfléchir à comment mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez le plan de lecture. On a un plan de lecture dans cette église. C'est des petites cartes comme ça. Elles sont aussi sur le comptoir là-bas derrière. Si vous voulez vous y mettre, on est le 2 juin. Donc vous pouvez vous y mettre pour le mois de juin sans aucun problème. C'est un plan mensuel. Chaque mois, il y en a un nouveau. Donc si vous voulez vous y mettre, c'est un ou deux chapitres à lire chaque jour. Mais maintenant, on va essayer d'aller encore plus loin avec ce plan de lecture. Si vous avez votre propre plan de lecture, vous pouvez aussi utiliser votre propre plan de lecture. Il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on veut, c'est aller un peu plus loin en réfléchissant à comment appliquer la Bible. Je vous donne juste quelques conseils. Soyez pas trop ambitieux. Essayez pas de passer une heure à méditer sur la mise en pratique de ce que vous avez lu. Enfin, vous pouvez, ce serait super, mais le risque, c'est qu'après quelques jours, ou même peut-être un jour, vous n'ayez plus le temps, et puis du coup, ça passe à la trappe. Donc, commencez modestement. Commencez peut-être avec 30 secondes par question. Il y a cette question. Ça fait 3 minutes 30. 30 secondes juste pour réfléchir à une pensée dans chacune de ces catégories. Faites-le pas sur... Si vous utilisez le plan de lecture de l'Église, faites-le pas sur les deux chapitres. Faites-le juste sur un chapitre. On lit à chaque fois un chapitre dans l'Ancien Testament, puis un chapitre dans le Nouveau. Faites-le juste, par exemple, sur le Nouveau Testament. Juste sur un chapitre. Vous réfléchissez à ces 7 questions pendant 3 minutes 30 par jour. On va voir ces 7 questions ensemble. Comme ça, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Vous pourrez les prendre après, mais je les passe en revue maintenant. Première question... Le contexte. De quoi parlait le chapitre précédent? C'est... Oups. Bon. Ça vous aidera à avoir une vue d'ensemble. Si vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai vu hier? Ça vous aidera à suivre le fil de la pensée de l'auteur biblique. Deuxième question, quelles sont les idées de ce texte? Pas besoin de tout noter, mais essayez de dire, mais c'est quoi les points, les éléments principaux dans ce texte que l'auteur a voulu me dire? Troisième question, quelles sont les choses que je ne comprends pas? Alors, ça peut paraître bizarre de réfléchir à ça, mais en fait, C'est normal de ne pas tout comprendre. Les plus grands théologiens du monde ne comprennent pas tout de la Bible. Ça, ce n'est pas un souci. Mais par contre, le fait de formuler cette pensée dans nos esprits va nous aider à nous en souvenir. Et il se peut que, deux chapitres plus tard, on trouve la réponse à la question qu'on s'était posée deux chapitres plus tôt. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Ou peut-être que le dimanche suivant, dans la prédication, ou bien en lisant un autre livre, ou en discutant avec un frère ou une sœur, tout d'un coup, la réponse va venir. Et du coup, c'est utile de dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce passage ? Quatrième question, qu'est-ce que ce texte m'apprend sur l'Évangile ? Le message de l'Évangile, c'est le centre de la Bible entière. Ce message de l'Évangile, il comprend beaucoup de notions. J'ai essayé de lister un petit peu toutes les notions qu'il y a derrière le message de l'Évangile. Il y a par exemple la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, la justification, l'adoption, la sanctification, l'espérance, la foi, la grâce, le pardon, le jugement, le sacrifice, l'expiation, la propitiation, la vie, la miséricorde, l'amour, la rançon. Et je pourrais encore multiplier les exemples. Toutes ces notions, toutes ces facettes nous permettent de faire des liens avec l'Évangile, avec le message de l'Évangile. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes ces facettes, ce n'est pas grave, mais ce que vous comprenez déjà de l'Évangile, essayez de, dans le texte que vous êtes en train de lire, de comprendre comment ce texte précède, annonce ou explique le message de l'Évangile. Faites un lien avec ce que vous connaissez du message de l'Évangile. Cinquième question. Comment ce texte m'aide-t-il à adorer Dieu ? La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la lettre que Dieu nous a laissée. En fait, on ne lit pas la Bible juste pour lire la Bible. On lit la Bible pour connaître Dieu. Et pourquoi on veut connaître Dieu ? Pour l'adorer. Alors, comment ce texte m'aide, m'apprend à adorer Dieu ? Sixième question. Qu'est-ce que ce texte me révèle sur mon caractère ? On l'a vu, hein ? La Bible, c'est un miroir. Et on serait fou de juste passer devant ce miroir sans regarder qui nous sommes et comment nous avons besoin d'être transformés. Et puis, septième question, comment ce texte me met-il au défi ? Là, on arrive à la mise en pratique. Comment est-ce que je dois être transformé par ce texte ? Alors, soyez pas trop ambitieux de nouveau, parce que si chaque jour vous envisagez une révolution complète de votre vie, vous n'allez pas vous en sortir. Après une semaine, vous serez mort, vous n'arriverez plus à rien faire. Mais plutôt par des petits changements consécutifs. C'est comme ça que Dieu va nous travailler. Peut-être que vous vous dites, ah mais je dois penser à Dieu ou je dois prier d'une manière un peu différente. Ou je dois envisager telle ou telle activité ou telle relation d'une manière un peu différente. Ou bien je dois gérer mes biens, gérer mon temps, gérer mon argent d'une manière un peu différente. Ou bien je dois adorer Dieu d'une manière un peu différente. Si vous faites cet exercice, si vous choisissez maintenant de vous lancer dans cet exercice, je vous conseille de vous donner un délai. Commencez par une semaine, jusqu'à dimanche prochain. Faites ça. Faisons ça. Moi, je vais le faire. Juste pendant 7 jours, de prendre 3 minutes 30 par jour. Et il se peut que vous n'ayez pas d'idée sur un des points. Par exemple, il se peut que vous n'ayez pas de questions dans le texte, parce que le texte est assez clair. Ou il se peut que vous n'arriviez pas à faire de lien avec l'Évangile dans ce texte. Ce n'est pas grave. Après 30 secondes, vous passez à la question suivante. Le but, ce n'est pas d'être exhaustif, mais c'est de nous pousser à la mise en pratique, de nous pousser à l'application. Et j'aimerais parier avec vous que cet exercice va être de plus en plus facile au fur et à mesure que vous le ferez. Nous allons y passer de plus en plus de temps et nous allons prendre de plus en plus de plaisir à y passer du temps. Parce que ce sera une discipline qui va nous amener à bâtir une vie chrétienne cohérente. Alors mes amis, arrêtons le blabla et vivons notre foi. Écoutons la parole, mettons-la en pratique et faisons de la mise en pratique de la parole de Dieu un style de vie. Je vais encore prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte, cette exhortation de Jacques. Je te demandais pardon pour mon manque de zèle à plonger mes regards dans ta parole, à la mettre en pratique, à faire de cette mise en pratique un style de vie. Je te demande, Seigneur, de changer mon cœur. Je te demande de changer nos cœurs. Je te demande de transformer notre Église pour que nous soyons assoiffés de ta parole, pour que nous puissions persévérer dans l'enseignement des apôtres comme l'Église de Jérusalem au 1er siècle, pour que nous ayons soif de te connaître, de t'adorer, que nous ayons soif de toujours mieux comprendre le message de l'Évangile et que nous ayons soif de voir nos vies être transformées radicalement par toi. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.